10h15.
Chapitre 118. Le sextant. La saison de pêche sur la ligne approchait enfin, et chaque jour, quand Akab, sortant de sa cabine, levait les yeux dans la mâture, le timonier vigilant tenait ostensiblement son gouvernail, et les matelots couraient avec ardeur au bras de vergue où ils se perchaient, le regard fixé sur le doublon cloué au mât, attendant avec impatience l'ordre de mettre le cap sur l'équateur. Et l'ordre vint en temps voulu. Il était alors près de midi, et Akab, assis à la proue de sa baleinière, hissée haut sur ses potences, s'apprêtait à faire son observation quotidienne du soleil pour déterminer sa latitude. Dans les eaux de la mer du Japon, les jours d'été ressemblent parfois à des torrents de lumière. L'implacable soleil japonais paraît être le foyer incandescent de l'océan vitreux, devenu un incommensurable miroir ardent. Le ciel semble une laque, pas un nuage. L'horizon flotte, et la nudité de ce rayonnement continue. Est comme la splendeur insupportable du trône de Dieu. Fort heureusement, le sextant d'Akab était muni de verres colorés qui permettaient de contempler cet incendie solaire. La silhouette assise, se balançant au rythme de la pirogue, l'œil vissé à un instrument d'apparence astrologique, il demeura quelques instants dans cette position pour saisir le moment exact où le soleil atteindrait son méridien exact. Tandis que son attention tout entière était ainsi concentrée, le Parsi, agenouillé sur le pont du navire au-dessous de lui, avait le visage levé semblablement vers le ciel, et il observait le même soleil. Mais ses paupières recouvraient à demi ses prunelles et ses traits farouches, à présent adoucis, exprimaient une impassibilité très humaine. La mesure désirée, une fois prise, Akab, avec son crayon, eut tôt fait de calculer sur sa jambe d'ivoire quelle devait être sa latitude à cet instant précis. Il s'abîma alors dans une courte rêverie, puis, relevant les yeux vers le ciel, se murmura à lui-même. « Ô amer, ô puissant et altier pilote, tu me dis sans mentir où je suis, mais peux-tu le moins du monde me faire savoir où je serai ? Et peux-tu me dire où se trouve en ce moment un autre être que moi ? Où est Moby Dick ? Tu dois être présentement en train de suivre ses mouvements. Et mes yeux scrutent l'œil même qui l'observe en cette minute, et observe pareillement toutes choses qui sont de l'autre côté de toi, dans l'inconnu, ô soleil. » Puis examinant son sextant et manipulant l'une et après l'autre les nombreuses pièces de cet assemblage cabalistique, il retomba dans sa réflexion et, à voix basse, jouait ridicule, hochait des amiraux, commodore et capitaine bouffi de suffisance. Le monde te célèbre, loue ton adresse et ta puissance, mais peux-tu faire plus, après tout, qu'indiquer le pauvre et pitoyable petit point de cette vaste planète où tu te trouves et la main qui te tient ? Et pas un iota de plus. Tu es bien incapable de dire où seront demain à midi une goutte d'eau ou un grain de sable. Et pourtant, fort de cette impuissance, tu insultes soleil. Science, maudit sois-tu, joujou absurde. Et maudit soient tous les objets qui font à l'homme lever les yeux vers un ciel dont les vives ardeurs ne peuvent que le brûler comme ta lumière. Ô soleil, brûle en cet instant mes yeux vieillissants. Le regard des hommes est par nature à hauteur d'horizon, il n'émane pas du sommet de leur être, de leur tête. Comme si Dieu eût voulu qu'il se fixât sur son firmament, maudit sois-tu, sextant. Il le jeta sur le pont. Je ne me laisserai plus guider par toi sur mon terrestre chemin. Le compas est l'estime par le loch et la ligne qui sont à la bonne hauteur humaine. Voilà par quel moyen je me dirigerai et saurai où je suis sur l'océan. Ah ! Il sauta de la pirogue sur le pont. « C'est ainsi que je te piétine, chétif objet, qui pointe si lamentablement vers les hauteurs. C'est ainsi que je te brise et te détruis. » Comme, dans sa frénésie, le vieil homme prononçait ces mots en frappant du pied et du pilon, un rictus de triomphe qui paraissait destiné à Akab et une expression de désespoir fataliste qui semblait adressée à lui-même passèrent sur le visage immobile et muet du Parsi. Il se leva et s'éloigna sans être vu, tandis que les hommes, saisis de terreur à l'aspect de leur commandant, se regroupaient sur le gaillard d'avant. Enfin, Akab, qui arpentait anxieusement le pont, lança d'une voix forte. « Auvergue, barre dessus, à brasser carré !» En un instant, les vergues pivotèrent et le navire évita. Ses trois mâts gracieux robustement plantés en un bel équilibre vertical sur la longue coque nervurée faisaient songer aux trois Horaces, pirouettant sur une seule et même monture. Starbuck, qui se tenait entre les bouts des apôtres, observait l'embardée violente du Pécode, mais aussi celle d'Akab, qui avançait sur le pont d'un pas titubant. J'ai longtemps regardé le feu intense des charbons qui brûle avec ardeur de toutes ces flammes vives et tourmentées. Puis je l'ai vu décliner toujours plus, et devenir enfin muette poussière. Ô vieux coureur des mers, de cet embrasement qu'est ta vie, que restera-t-il pour finir, sinon un petit tas de cendres ? Sans doute, s'écria Stubb, mais des cendres de houille, notez-le bien, monsieur Starbuck, des cendres de houille et non de charbon ordinaire. Je vais vous dire, j'ai entendu Akab murmurer, on a poussé ces cartes dans mes vieilles mains en jurant que je devais les jouer, celle-ci et point d'autre. Et sacrebleu, Akab, tu agis comme il faut, joue ton jeu jusqu'à la mort.